Je vous invite à lire donc dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 6 et du verset 12 à 23. Quand même un passage très particulier. Donc je vous laisse arriver dans vos Bibles sur le passage. On vient dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom, tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel et il était ceint d'un épod ou un éphod, je ne sais pas comment on dit, de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après avoir amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis en place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun son pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes, de ses serviteurs, comme on se découvrirait un homme de rien. » Mais David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, et c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Alors, mes amis, dans ce texte, on peut dire que c'est la fête, hein. C'est un texte quand même qui est très puissant, puisqu'on a l'impression quand même que tout le monde participe à la fête, tout le monde est heureux et joyeux, on dirait presque qu'ils sont euphoriques. Ça peut rappeler un peu certaines choses qui ont été mentionnées ce matin dans le culte, autant dans le culte commun, dans l'expression, dans les prières, que le témoignage que l'on a rendu. Et dans ce passage, on chante, on joue des instruments comme au temps de Moïse, hein, on assiste au retour de l'arche, donc on a un peuple qui est en joie, qui crie et qui acclame Dieu. Alors, ils acclament Dieu, pas forcément David, hein. On se dit que David qui monte, eh ben, tout le peuple va acclamer le roi, ce n'est pas vraiment le cas, parce que David, lui, fait tout pour éviter que la gloire tombe sur lui. Parce que déjà, il se met à danser, donc c'est quand même très particulier, et on dit, il fait tout un peu pour, je dirais, entre guillemets, s'humilier. Il y a le fait qu'il danse, il y a le fait qu'il ait simplement un éphod autour de lui, ça veut dire qu'il n'avait pas d'habits royaux. Et alors là, ça, je dirais qu'on a une sorte de clin d'œil entre cette montée de l'arche avec tout le peuple et David qui danse. Il y a des petits clins d'œil aussi avec le Nouveau Testament. Hein, ça peut rappeler Jésus qui était quelqu'un de humble avec sa tunique et qui était représenté comme le serviteur souffrant. Parce qu'il dit quand même, David, qu'il fait, il veut paraître encore plus vil que cela et s'abaisser à ses propres yeux. C'est quand même assez étrange pour un roi. Et il y a un autre clin d'œil qu'on peut faire avec Jean-Baptiste, lui qui disait « je veux qu'il grandisse et que moi je diminue ». Et aussi avec l'apôtre Paul qui a toujours dit, qui mettait en avant plutôt sa, je dirais, la folie de la croix que la sagesse des hommes. Et puis encore un autre petit clin d'œil avec le Nouveau Testament, c'est le fait aussi qu'il y a un veau gras qui peut rappeler le veau gras du fils prodigue. Et puis encore un autre petit clin d'œil, quand tout le peuple est nourri par David et ses serviteurs, et ça peut rappeler un peu la multiplication des pains et des poissons. Alors c'est pour dire que le Nouveau Testament, c'est pas l'inverse, hein, le Nouveau Testament s'inspire toujours de l'Ancien Testament et pas l'inverse. Hein. Faut toujours lire le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament, mais j'y reviendrai. Donc c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses. C'est vrai que cette montée de David et le fait qu'il rapatrie l'arche, ça peut rappeler aussi à un moment le jour des rameaux où le peuple acclame le Christ. Alors, dans cette histoire, on a l'impression que tout est improvisé, tout est spontané. C'est pas complètement faux. Et là aussi, on peut un peu se rappeler un petit peu ce que dit l'Ancien Testament sur la montée de l'arche, en montrant que ça accomplit l'Ancien Testament. Alors, ce matin, j'aimerais que l'on se pose la question. Est-ce que nous, si on devait faire un rapport entre le geste de David et nous, est-ce que nous, on n'a pas aussi une arche à ramener? Donc je poserai la question de façon précise, en sachant que symboliquement, ça veut dire que David a pris un risque énorme en remontant, en allant chercher cette arche et en se mettant comme cela en scène. Est-ce que l'Église a une arche à rapatrier? Parce que là, David, dans ce qu'il fait, il montre quand même un geste fort, un geste d'amour qu'il a pour Dieu. À l'inverse un petit peu du roi Saül, qui lui n'en avait rien à foutre, excusez-moi, de l'arche, hein, puisqu'il l'a laissé, c'était les Philistins qui l'avaient pris, et puis je crois qu'il s'en est servi une fois pour aller à la bataille, mais à aucun moment on voit le roi Saül essayer de se préoccuper d'avoir un lieu pour adorer Dieu, ou de construire un temple, chose que voulait faire David. Donc déjà, on voit que le roi Saül était quelqu'un qui n'avait pas un gros attachement pour l'Éternel, quoi. Pas, disons, pas de la même manière, mais David était vraiment le roi selon le cœur de Dieu. Alors, quand on lit ce texte, on aimerait que notre louange soit comme la louange qui est décrite, c'est-à-dire une louange qui soit libérée, spontanée, avec des cris de joie, comme l'a dit Colette, avec des trompettes, des luttes et tout un ensemble de choses. Bon, on a quand même une guitare, hein, on a quand même un piano, des fois on a de la flûte. Et je me disais, bon, tout ça c'est un petit peu relatif, mais quand même ce matin j'ai vu qu'il y avait une certaine ferveur. Si on regarde il y a 3 ans nos cultes, ils étaient peut-être pas aussi vivants. Et je me dis que là il y a quand même une leçon. Il y a une leçon, il y a peut-être dans ce texte, moi j'ai l'impression de vivre un renouveau spirituel, hein, c'est clair, dans ce qui se passe là. Et nous peut-être on vit des choses, alors c'est pas tout à fait de la même manière, mais je pense que nos cultes ont quand même une intensité un peu plus grande. Alors je reviens sur le fait de cette louange-là. On se dit, mais c'est complètement désordonné, c'est complètement euphorique, spontané et tout. Par contre, quand vous allez relire le même texte dans le livre des Chroniques, alors il y a toujours cette joie, cette abondance, mais malgré tout, on voit que les choses sont cadrées. David ne fait pas n'importe quoi. Et chacun, dans cette montée de l'arche avec ces gens qui louent Dieu, tout le peuple qui est en joie, on voit quand même que chacun sait ce qu'il a à faire. Et le roi David, il n'a pas inventé la chose, hein. Il a suivi scrupuleusement les règles et les ordonnances dictées par Moïse au sujet du culte. Alors bien sûr, on nous parle donc de cette montée de l'arche à la tente de Jérusalem. Alors la tente, ça n'est pas, historiquement c'est quand même important de s'attacher au texte, ce n'est pas le tabernacle. Il faut savoir que les choses ne sont pas bien fixées encore en Israël. Hein. Quand David prend les rênes du pays, il y a eu quand même pas mal de désorganisation pendant la période des Juges, c'était un peu tout et n'importe quoi. Et quand on voulait écouter la parole de Dieu, il fallait aller voir le voyant, c'est-à-dire le prophète. Et il est quand même dit dans Samuel que pendant toute cette période des juges, la parole était rare. Et là, d'un seul coup, quand même, avec la venue de David, les choses sont en train de changer. Donc je vous disais, donc cette tente, c'est avant que le temple soit construit, David avait à cœur de construire une tente dans laquelle il allait mettre l'arche, alors que le tabernacle, lui, se trouvait à Gabaon. Alors on sait que le règne de David initie un réveil spirituel et c'est aussi un retour aux sources. Alors, comme je disais, c'est quelque chose qui est riche d'enseignements pour notre Église. Comme je vous le disais, on vit un renouveau spirituel. Peut-être, j'espère que vous vous en rendez compte, que quand même quelque chose est en train de se passer. Il y a plein de facteurs, hein. Il faut savoir interpréter les signes que Dieu nous envoie. Ça peut être une plus grande participation au culte, des prières qui sont plus nourries, où il y a eu des moments où, pendant les cultes, quand il y avait la prière libre, il y avait des trains de marchandises entre deux prières, quoi. C'était extraordinaire. Mais là, quand même, les choses reviennent. Donc, il ne faut pas non plus rentrer dans l'euphorie, mais quand même, le Seigneur travaille. Et il nous demande d'interpréter les signes qu'il nous donne, même s'il y a encore énormément de choses à faire. Et ça doit être un encouragement pour nous, faire preuve de créativité et faire preuve de spontanéité. Alors, ce matin, j'aimerais quand même revenir sur des points essentiels et de vous montrer que chaque chose écrite dans la Bible est un texte inspiré et qu'il faut toujours étudier le texte avec soin. Le texte, il a une richesse particulière. Il ne faut pas toujours chercher à spiritualiser, mais regardez ce que le texte nous dit. Alors, j'ai choisi celui-ci parce que, à la première lecture, on peut peut-être un petit peu sous-estimer en pensant que ce qui nous est raconté là, c'est simplement un épisode de la vie de David, comme les chapitres précédents où on voit David, quand il est poursuivi par Saül, il vit plein de choses un petit peu particulières. Or, ce n'est pas le cas. Ce passage-là a quand même une portée prophétique et messianique, parce que c'est le début du règne de David, et savoir que David est quand même l'ancêtre de Jésus-Christ, il est quand même un roi messianique, c'est pas n'importe quel roi, et puis en plus il vient contraster un petit peu avec une période où c'était pas la joie avec les juges, où c'était véritablement le chaos, le paganisme, enfin c'était vraiment absolument atroce, et de voir que David va essayer de remettre les choses en place. Alors, dans ce texte, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je vous en ai révélé quelques-unes, quelques analogies entre entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, sachant que le Nouveau Testament s'est inspiré de ce qui se passe dans l'Ancienne Alliance. Jésus, lui, récapitule toujours l'Ancien Testament. Alors, j'ai choisi trois thèmes. Je voudrais revenir premièrement sur qu'est-ce qu'un texte, quelle est la richesse d'un texte. Des fois, il y a des textes qui sont difficiles, mais ça vaut le coup de s'y pencher parce que le texte en lui-même porte une force particulière. Après, je parlerai donc de David, de sa place messianique, le fait qu'il se mette à danser, et j'aborderai un tout petit peu le problème de l'arche. Et pour en conclure, je parlerai de l'épode, le fait qu'il avait ce vêtement sacerdotal qui est quand même très très riche en signification. Donc j'ai retenu ces trois points alors qu'il y en avait plein d'autres. Alors maintenant je reviens un petit peu sur la force du texte. Parfois, on réagit avec un petit peu de recul ou de scepticisme sur des textes bibliques qui sont un petit peu ardus. Alors ça veut dire que notre amour de l'écriture fonctionne parfois sur certains textes, sur simplement le côté intelligible ou une approche purement littéral d'un texte. Je pense au Lévitique ou Deutéronome ou certains oracles de prophètes. Des fois, c'est pas évident à lire. Et quand on lit ce type de passage, ce qui est important, c'est que pour ceux qui les lisaient à l'époque, il faut se mettre à leur place. Pour eux, par exemple, quand on parle de l'arche, il faut savoir que quand on décrit l'arche, quand on décrit le tabernacle, toutes ces prescriptions qui nous paraissent un peu abstraites, eh ben c'est quelque chose qui, dans la tête des gens, quand ils le lisaient, ça structurait leur foi. Alors, en plus, j'ai fait tout un développement que j'ai pas mis là-dedans, mais j'ai fait quand même pas mal de recherches pour vous dire que le texte biblique, même quand il est compliqué, eh ben, il nous rend plus intelligents parce qu'il nous rend quand même, ça nous force à regarder, à étudier, à approfondir et de se dire que toutes ces prescriptions, tous ces détails, eh ben, c'est pas pour rien que Dieu les a donnés à son peuple. Parce que c'était un peuple quand même qui était très différent des autres peuples aux alentours. Et que ça a donné une personnalité particulière à Israël et que Dieu avait vraiment besoin de, entre guillemets, de créer une généalogie du religieux. Hein. Ça remontait de Moïse jusqu'à la période de David. Et que toutes ces choses qui sont écrites, entre la Genèse et le livre des rois, ou même le livre de Samuel, c'est quelque chose qui a donné une identité au peuple. Et nous, en tant que chrétiens, il faut des fois lire ce texte et prendre du temps pour les analyser. Pas forcément toujours à essayer de spiritualiser à fond, parce que le texte en lui-même, il est chargé de sens. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on aurait tendance à relativiser ces détails parce que on pêche un petit peu, on spiritualise tout et on lit souvent l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Mais c'est pas ce qu'il faut faire. Je dis pas qu'il faut pas toujours le faire, mais c'est insuffisant. Il faut plutôt inverser la démarche et interpréter le Nouveau Testament à la lumière de l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même, comme je vous l'ai dit, récapitule souvent toutes les paroles, dans ses paroles et dans ses actes, l'Ancien Testament. Hein, il ne remet pas en cause toutes les prescriptions de Moïse, même s'il les relativise, mais il ne méprise pas non plus la loi, tous les détails techniques sur le temple, il a un grand respect. Alors pour cela, je m'appuie sur la valeur du texte, pour dire la puissance même du texte biblique, je m'appuie sur 2 Timothée 3:15 et 3:16. « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et le psaume 119 qu'on a lu, je pense, hein, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, il y a une quantité d'autres versets qui appuient sur la puissance du texte biblique. Mais le texte, aussi riche soit-il, ne se révèle vraiment qu'aux croyants, que par le Saint-Esprit. C'est la seule manière d'interpréter les textes et de comprendre la puissance du texte. Parce que tous les savants biblistes ou tous les théologiens libéraux ou même des théologiens qui sont athées ils vont approfondir le texte. Donc des fois, ils nous font ressortir des choses intéressantes, mais ça ne touche pas forcément leur cœur. Alors je dis attention, il ne faut pas confondre avoir le Saint-Esprit et spiritualiser à outrance. Un texte qui a sa propre richesse. Tout ça, si vous voulez, c'est une question d'interprétation et surtout de respecter la parole écrite. Et toujours tenir compte, si vous voulez, du contexte et de l'enracinement historique de la Bible. Alors, je crois que ça nous apprend à réapprendre à lire notre Bible et il ne faut pas hésiter de céder de commentaires et même de participer à et de partager l'étude de la parole de Dieu dans notre Église. Alors maintenant, j'aborde le deuxième point, c'est David quand le fait, il danse. Alors, j'étais saisi par l'atmosphère euphorique de la montée de l'arche. Alors, effectivement, quand on lit dans le 2 Samuel 6, on a l'impression que c'est un joyeux brouhaha, que vraiment c'est fait un peu tout et n'importe comment, que vraiment c'est un peu une foule un peu entre guillemets euphorique. Mais quand on lit donc dans le premier livre des Chroniques au chapitre 16, on voit que les choses sont beaucoup plus ordonnées. Ce qui n'enlève rien à la joie et ce qui n'enlève rien à Chroniques 15 et 16. Et que c'est quand même quelque chose qui est organisé, structuré. Parce que le livre des Chroniques nous donne des indices supplémentaires sur la montée de l'arche. Et il détaille le personnel et le cérémonial. Alors, si je dois rester sur la première impression, j'étouffe. Il ne faudrait pas que j'interprète la louange du culte sous simplement cet angle où la louange serait livrée à elle-même. Ça serait, à mon avis, une grave erreur de savoir que, bon, on peut tout faire et n'importe quoi dans un culte et s'exprimer dans le désordre. En effet, c'est vrai que, malgré tout, ça laisse de la place à de la spontanéité, et c'est vrai qu'on assiste à de l'effervescence et à des démonstrations spontanées. Mais quand vous lisez donc la montée de l'arche dans le livre des chroniques, on voit que les choses sont un peu plus organisées. Et même si David dansait, il ne le faisait pas pour rien, il ne le faisait que pour glorifier Dieu et il dansait exclusivement pour Dieu. Alors on va essayer un peu de comprendre ce qui se passe. Alors croyez-moi, quand David y monte avec tout le peuple qui rapatrie l'arche, il faut savoir que l'homme a quand même vécu énormément de tensions. Faut savoir que bon, il accède à la royauté, mais qu'avant il en a bavé. Il était berger. Bon ben, il devait des fois tuer les loups et des choses comme ça. Après, il devient chef de bande, et puis il est poursuivi par Saül. Donc il en a vu quoi. Donc c'était quelqu'un qui a été quand même vraiment sous une pression psychologique très forte. Et on peut se dire qu'au moment où il danse, c'est pas interdit de se dire, il lâche la pression quoi. Il se laisse porter, je dirais, par l'esprit. Voilà, il est là, il voit tout ça, tout ce qui se passe, c'est son règne, c'est le règne qui commence, il rapatrie l'arche, donc c'est quelque chose, déjà l'arche a une symbolique énorme, et puis tout le peuple qui est là, et puis il monte à Jérusalem, donc c'est vraiment un moment exceptionnel dans l'histoire d'Israël, et quand il est là, je pense que c'est quelque chose qui est de l'ordre du prophétisme, c'est-à-dire le Saint-Esprit descend sur lui, et il se libère complètement, il est dans un état d'abandon, et donc il danse. Et c'est quand même assez exceptionnel, parce que généralement, dans les cultes, dans l'histoire d'Israël, c'était que les femmes qui dansaient. C'était rare que ça soit les hommes. C'est un peu, mais on a vu dans le reportage, dans le rapport que tu nous as donné sur la mission, que la danse était aussi un moyen d'exprimer la puissance de Dieu, quoi. Alors, quand je vous dis que c'est d'ordre prophétique, ça peut-être choquer, à savoir que quand l'Esprit de Dieu descend sur une personne, des fois, ça a quand même des manifestations un peu particulières. Alors, si vous en doutez, vous avez qu'à lire dans 1 Samuel 10 ou 1 Samuel 19, ou dans 1 Roi 22, vous verrez qu'à chaque fois que le Saint-Esprit descend sur un prophète dans l'Ancien Testament, la personne rentre dans un état de transe ou d'extase, et que même, il est dit, un verset dit, ça vous change un homme, quoi. Donc il y a un peu, je dirais, une similitude entre l'activité prophétique et l'attitude de David qui dansait et qui vraiment honorait Dieu. Ensuite, j'ai parlé de la danse, maintenant je parle de ce qui est quand même central, c'est toute l'histoire et la symbolique de l'arche. Pendant 60 ans, cette arche n'était pas en Israël. Alors, ça n'avait pas l'air de préoccuper beaucoup le peuple d'Israël, qui avait l'air de s'en foutre un peu, il faut dire ce qui est. C'était pas, on dirait que l'état spirituel du peuple d'Israël avant David, sous le règne des juges et sous le règne de Saül, ça devait être un petit peu mélangé, il n'y avait pas une vraie ferveur spirituelle. D'ailleurs, on dit que la parole était rare, et... En plus, les Philistins, ils avaient pris l'arche, ils l'avaient enlevée, puis ils l'avaient emmenée dans le nord, dans leur pays. Ensuite, elle a voyagé pendant 60 ans. Et à ce moment-là, quand même, pour le peuple d'Israël, l'arche était quand même importante. Quand ils l'ont vue, ça a rapatrié tous les souvenirs et toute la symbolique. Quand on lit un peu la symbolique de l'arche, moi j'ai fait une enquête là-dessus, elle a vécu des vicissitudes, mais l'arche de l'Alliance, c'était quand même quelque chose. Il est dit à un moment donné, quand l'arche était là, l'esprit descendait sur tout le peuple, et le peuple était dans la joie. Et quand il y avait des batailles, on mettait l'arche, le peuple est rentré en Canaan, on mettait l'arche sur le champ de bataille, et ça permettait d'avoir des victoires. Donc voilà, donc quand l'arche revient, c'était vraiment quelque chose. Et il faut savoir que l'arche, elle a aussi une symbolique de pardon propitiatoire, mais il faut savoir qu'elle contenait les deux livres de la loi. Donc vous voyez, c'était quand même extraordinaire. Et là, je reviens un petit peu aussi sur le fait qu'il ne faut pas prendre ce texte comme simplement un épisode de la vie de David. Ça s'inscrit vraiment, ce qui se passe là est très important, parce que c'est l'accomplissement de prophéties. Alors de choses qui seront annoncées après, enfin de prophéties qui seront reprises par les prophètes et le Nouveau Testament, mais aussi l'attente d'un roi qui soit selon le cœur de Dieu. Hein. C'est dans les psaumes où il est dit que David était un roi selon le cœur de Dieu, et c'est véritablement un accomplissement prophétique. Cette montée de l'arche et ce peuple qui glorifie Dieu et David qui danse, c'est vraiment un moment historique et messianique et spirituel, quoi. Et moi, je pense qu'il faut rapprocher ce passage un peu dans ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse, où il est dit, dans le Deutéronome, il est dit « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour faire résider son nom. » Donc, ce n'est pas encore le temple, mais quand même, il y avait quelque chose de cet ordre. « C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Et c'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. » Vous vous rendez compte que ce qui se passe là, il ne s'est rien passé pendant des siècles, sauf dans le désert avec Moïse, ou dans les premiers temps avec Josué. Et puis après, pendant plusieurs siècles, il n'y avait plus rien, quoi. Alors je dirais que la leçon de cette montée de l'arche, c'est aussi une leçon sur la manière de louer Dieu, sur le fait qu'il soit spontané, débridé. Alors ce n'est pas le cas, car David a respecté, je dirais donc, toutes les conditions de Moïse, hein, comme ça a été décrit dans le livre des Chroniques. Et ce que je tenais à dire, c'est que David ne fait pas n'importe quoi, même si on a l'impression qu'il se laisse aller. Comme je disais, au contraire, il est rempli du Saint-Esprit, et tout ça rentre toujours dans une logique prophétique. C'est pas quelque chose qui arrive accidentellement, qui n'était pas prévu, mais ça rentre dans un grand schéma prophétique. Alors, un petit détail, c'est que Michal, à un moment donné, elle reproche à David qu'il s'est mis nu, qu'il s'est dévêtu. Or, ça n'est pas du tout le cas. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, David, il s'est revêtu d'un vêtement qui s'appelle l'épode. Alors, l'épode, c'était un vêtement qu'avaient les sacrificateurs et qu'avait le grand prêtre. Et ça partait de là, en dessous des aisselles, et ça montait jusqu'au torse. Et les sacrificateurs et les grands prêtres, eux, ils avaient en plus un pectoral qui venait les revêtir. Mais David, lui, il a choisi de ne se revêtir que d'un épode. Donc on voit vraiment qu'il avait une attitude dans cet épode, une attitude d'humilité. Et je me dis qu'en faisant ça, eh ben, il s'est quand même mis en danger. Parce que de venir et de danser comme ça, on aurait pu penser qu'il pourrait se ridiculiser auprès de ses hommes ou auprès de ses soldats ou auprès du peuple. Et or, ça n'a pas été le cas, parce que c'était quelque chose qui était voulu par Dieu, et je pense que l'Esprit était vraiment présent dans ce moment-là. Seul Michal a commencé à le critiquer, et elle le paiera assez cher puisqu'elle restera stérile. Et puis bon, en plus, voilà, elle sera mise totalement de côté. Je pense qu'il n'aura plus de relation avec elle. Et ce texte, moi, je trouve qu'il a quand même marqué l'histoire biblique, hein, parce que on voit quand même un roi qui se consacre totalement à Dieu, et surtout, c'est un roi qui, par son caractère, sa façon d'être et son courage, il se distingue de tous les rois, enfin de Saül surtout, mais de tous les rois qui vont suivre. Alors, ce qui est bien dans son attitude, c'est que donc David tenait à se dépouiller totalement devant Dieu. Et je pense qu'il a voulu montrer qu'il était d'origine humble et que s'il avait été choisi par Dieu, Dieu le lui rappelle, hein, il lui dit, ben, je t'ai cherché derrière, dans les pâturages, derrière tes brebis. Et ça, le roi David essaie de ne jamais l'oublier. Et le geste de David doit être un exemple pour nous. Je dirais que sa position de roi a été un facteur de risque, hein, parce que, avec, comme je vous l'ai dit, il risquait de se ridiculiser et puis d'être pris pour peut-être pour un fou. Alors, tout ce que je viens de vous dire au sujet de cette montée de l'arche et aussi des risques que cela prend, et surtout de voir ce renouveau spirituel, est-ce que moi, par analogie, est-ce que je suis prêt à prendre autant de risques? Est-ce que des fois je me demande, est-ce que quelle arche Dieu me demande de prendre? Quel risque je suis prêt à prendre pour me mettre, je dirais, des fois en danger par mon témoignage ou par ma vie? Alors, si jamais je n'ai pas ce type de situation, soit je ne l'ai jamais rencontré, ou soit que mon témoignage est tellement peu visible que, je ne suis pas confronté aux questionnements et aux choses qui me viennent de l'extérieur. Mais sachant que le geste de David marque quand même un engagement fort. Et donc, pour conclure, la question que je me pose et que je pose aussi à vous, c'est est-ce que je suis à la hauteur de ce que Dieu me demande? Si je ne rapatrie pas mon arche, quelles conséquences ça aura pour moi et quelles conséquences ça aura aussi pour l'Église? Et je pense que chacun de nous, on a une arche, entre guillemets, à rapatrier. Alors, quelle peut être ma réponse par rapport à cette question de Dieu? Alors, soit je l'ignore comme Saül, mais on voit la triste fin qu'a eu ce roi au cours de l'histoire d'Israël, ou soit je fais les choses à moitié, je rapatrie cette arche, mais il n'y a pas toute cette célébration et toute cette manifestation et toute cette honneur que je rends à Dieu, ou soit je vais jusqu'au bout et je m'investis comme l'a fait le roi David. Alors, en conclusion, pour vous dire que la question que je me pose et que je vous pose, que chacun s'examine, mais aussi que chacun ne pas vivre non plus dans une culpabilité inutile, mais de s'interroger clairement, mais aussi que chacun, comme je le disais, sache s'encourager en évaluant, je dirais, à sa juste valeur les mesures que accomplit, même si parfois, Le texte du Nouveau Testament nous dit « Nous sommes des serviteurs inutiles, mais nous restons des serviteurs à l'écoute de Dieu. » Alors, que Dieu vous bénisse et qu'il vous encourage. Amen.